Voilà, bonjour à vous tous. Merci d'être présents donc aujourd'hui pour rencontrer notre invité du jour, à savoir Eric Emmanuel Schmitt, suite à la parution chez Albin Michel de son nouveau livre, Le Sumo, qui ne pouvait pas grossir. Eric Emmanuel Schmitt, bonjour.
Bonjour.
Alors, je suis très heureux de vous accueillir ici chez Filigrano aujourd'hui, car finalement, la rencontre, qu'elle soit bonne ou mauvaise, n'est-ce pas l'essentiel de la vie, n'est-ce pas elle qui permet de donner du sens justement à notre existence, comme vous le faites à travers vos livres.
C'est vrai que dans mes livres sont l'histoire de rencontres, avec des rencontres qui provoquent un avant et un après, parce que c'est ça une rencontre, c'est ce qui change tout. Et que ce soit dans mon théâtre ou dans mes romans, voilà, il y a des personnages qui sont enfermés dans leurs problèmes, enfermés dans leurs certitudes, enfermés dans leur vie, au fond déjà presque morts. Et puis, heureusement, il y a quelqu'un qui arrive, qui ouvre une porte, qui ouvre une fenêtre, un visiteur ou autre chose. Il y a une rencontre qui fait que tout d'un coup, tout change. Et le personnage principal va souffrir, mais quand même va se reconstruire. Donc, il y a toujours cette idée dans mes livres que ce n'est que par l'altérité qu'on peut arriver à être soi. C'est-à-dire ce n'est que dans le rapport à l'autre qu'on peut arriver à devenir quelqu'un.
Alors cette fois-ci, la rencontre, eh bien, c'est celle d'un jeune adolescent de 15 ans. On peut dire qu'il est paumé dans les rues de Tokyo. Il vit un peu comme un corbeau ou comme un rat. Et la rencontre qu'il va faire, c'est avec un curieux maître de sumo.
Oui, c'est un adolescent à la dérive, en rupture avec son passé, sa famille, le lycée, la société, puisqu'il vit de petits commerces illicites, il vend des objets qu'on a du mal à identifier, des espèces de canards en plastique, qu'il lui-même trouve absolument ringard, et il ne parle à personne. Et puis tout d'un coup, il est dérangé dans sa tranquillité et dans son autisme, parce qu'il est complètement renfermé sur lui-même, il est dérangé par un vieil homme qui passe, qui chaque matin lui dit sur le trottoir, je vois un gros en toi. Alors, c'est au début, il croit qu'il entend mal. Ensuite, il se dit, mais c'est absurde parce qu'il est très, 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 très mince, voire maigre et assez fier même de sa maigreur. Et cet homme lui dit, je vois un gros en toi. Donc, un jour, il va exploser, il va insulter ce vieillard, ce qui est déjà une première réussite pour le vieillard puisqu'il a créé une communication, même si c'est une communication qui passe par l'insulte. Et puis après, il va y avoir des échanges et il va découvrir qu'en fait, ce vieil homme, quand il lui dit je vois un gros en toi, c'est que il voit en fond en lui un futur champion peut-être, parce que cet homme, Shominsu, dirige une école de sumo. Les sumo, comme vous le savez, ce sont ces lutteurs. J'allais dire japonais, parce qu'au départ, le sport est purement insulaire et japonais, mais maintenant, il y a des lutteurs de sumo dans le monde entier, hein, ce qui, d'ailleurs, agace beaucoup les Japonais, puisque les derniers grands champions étaient bulgares, etc. Et comme disent les Japonais, ils sont obligés de s'épiler, à la différence des Japonais, pour se monter sur le ring. Pour ce garçon, Jun, il n'y a rien de plus dépassé, de plus ringard, de plus inintéressant que les sumo. Pour lui, ce sont des obèses qui sont juste bons à rentrer à l'hôpital pour se faire soigner. Or, tout d'un coup, il va être emmené dans un match de sumo. Il va découvrir la beauté de ce sport, l'aspect exceptionnel de ces hommes. Mais je crois que pour comprendre aussi en quoi ces êtres sont exceptionnels, il faut se replonger dans la mentalité japonaise.
Également, mais ce n'est pas là l'idée centrale de ce conte philosophique, qui est également le regard de soi, le regard des autres. Parce qu'au cours justement de ce, j'ai moins de dire, de ce spectacle, mais de ce combat, plutôt justement, il va arrêter de regarder avec ses propres yeux, mais il va regarder avec les yeux des autres.
Il va regarder avec les yeux des autres. Parce que c'est vrai que le premier regard qu'il a sur les sumo, c'est presque un regard, c'est le regard d'un jeune japonais d'aujourd'hui, mais c'était presque le regard d'un occidental. Or, on est au Japon, un pays dont le régime alimentaire ne fabrique pas d'obèses, car le régime alimentaire japonais fabrique des êtres assez minces, et d'ailleurs qui vivent très longtemps, puisque vous savez que c'est le pays au monde où il y a la plus grande proportion de centenaires. Et donc, on n'est pas aux États-Unis. Et tout d'un coup, ces êtres qui prennent autant de volume, c'est volontairement. c'est pas par déficience qu'ils deviennent aussi volumineux. C'est volontairement au prix d'un entraînement, au prix d'une grande volonté, et ils apparaissent aux yeux des Japonais comme exceptionnels. Pour les hommes, ils sont exceptionnels parce que ce sont des colosses. Au début, ce sont des jeunes gens grands et minces, normaux, et ils deviennent des colosses. Et aux yeux des femmes, ils sont des icônes, des idoles, et ils sont même infiniment sexy. Et donc, tout d'un coup, Jun va découvrir qu'on peut voir le monde avec ces yeux-là. Et de toute façon, c'est tout l'intérêt de... Je pense que c'est la raison pour laquelle vous lisez, c'est la raison pour laquelle moi je lis et j'écris. C'est essayer de voir le monde avec d'autres yeux que ses préjugés, mais avec les yeux des autres. Et c'est ce qui va se passer pour Jun. Il va tout d'un coup se mettre à regarder ses lutteurs avec les yeux de l'admiration.
Alors c'est vrai que votre adolescent, eh bien, ressemble à un perroquet prisonnier dans une cage à préjugés. Souvent on est aveuglé par nos propres préjugés, et même si c'est pas facile de changer, on n'a jamais dit que ça serait facile, mais c'est possible de le faire.
Oui, ça c'est une phrase que dit souvent Shōminsu, j'ai dit que c'était possible, pas facile. Voilà. Donc après il y a tout un apprentissage, pas seulement pour devenir un sumo. Au fond, c'est une fable, hein. Il ne s'agit pas tant de grossir que de grandir. C'est-à-dire d'accepter d'aller dans le monde réel, de devenir un homme, de prendre, d'occuper tout le volume qu'on doit occuper pour être un être humain. Et c'est ce à quoi se refuse au début de Jun, et ce à quoi progressivement il va se prêter. Ça va passer par l'analyse de soi, ça va passer aussi par la pratique d'un art martial qui lui permet de domestiquer sa violence, d'en faire un spectacle, un sport. Donc c'est bénéfique. Et puis ça va aussi passer par le bouddhisme zen,
qui est expliqué à travers ce conte philosophique. Alors ce jeune adolescent, eh bien, il va cacher ses souffrances au départ, avant cette rencontre, à travers la colère, la violence, l'exagération, les sarcasmes. Est-ce qu'un écrivain fait de même avec l'écriture de ses livres? Et est-ce que pour un écrivain, les livres sont des bouées de sauvetage, justement?
Ben, vous voyez, je nage bien parce que mes bouées sont petites. Non, je sais pas. Pour moi, l'écriture n'est pas une manière de me sauver, c'est une manière de parler aux autres, c'est une manière d'exister, c'est une manière aussi d'explorer le monde. Je conçois vraiment l'écriture comme une façon d'explorer l'univers, la complexité des êtres humains, la complexité de la culture. C'est un mode de voyage et d'exploration pour moi, l'écriture. Un mode d'analyse aussi. Et c'est une façon de rencontrer l'autre dans l'écrit, et ensuite par le livre que je provoque, la lecture. Je n'écris pas pour me soulager, je n'écris pas comme on vomit, je n'écris pas pour moi. Je fabrique des objets, j'allais dire des œuvres, mais ça fait un peu prétentieux, mais je fabrique des objets littéraires, organiques, en essayant de faire en sorte qu'ils soient le mieux fait possible.
Mais est-ce qu'Eric Emmanuel Schmitt, je vais reprendre votre terme d'objet, que ce soit les objets, le livre, le théâtre, le cinéma, ne sont pas des appels à la tolérance?
Oui,
est-ce que c'est pas ça le lien qui forme?
Ces objets, ils ont un sens, ou en tout cas des saillies de sens. C'est-à-dire qu'effectivement, pour moi, lire ou écrire, c'est créer de la proximité. C'est abolir la distance entre l'autre et soi, pour tout d'un coup devenir l'autre, le temps d'une lecture, le temps d'un livre, devenir un être différent, comprendre quelque chose qu'on ne comprendrait pas sans la vertu d'une histoire, sans le passage par une histoire. Pour moi, véritablement, l'objet de l'écriture, c'est proprement humaniste, c'est-à-dire c'est vraiment aller à la rencontre de ce qui est différent de soi, de ce qui n'est pas soi, et de ce qui pourrait être soi, parce que dans certains de mes livres, j'ai fait des choses, entre guillemets, assez dérangeantes, voire assez désagréables, comme par exemple quand j'ai écrit La part de l'autre sur Hitler, où je fais ce livre pour essayer de montrer que Hitler est certes un autre que nous, mais pas si loin de nous que ça, puisque ça pourrait être soi si on se laissait aller à. Et donc, il y a certains voyages qui sont dérangeants. Découvrir que ce qu'on estime être monstrueux n'est pas du tout hors de notre portée, mais un de nos possibles. Mmh. Puis il y a des voyages qui sont plus agréables, se découvrir proche d'un personnage qu'on trouve sympathique, mais on peut aussi se découvrir proche d'un personnage qu'on trouve hautement antipathique et peu recommandable.
Mais c'est certainement à travers les sumos que vous avez choisi, à travers cette nouvelle histoire, c'est seulement également les places, je dirais, des obèses aujourd'hui dans notre société, parce qu'on a sans doute tendance à justement avoir des préjugés par rapport aux autres sans les connaître.
Mais ça me plaît beaucoup de donner une image positive du gros. Parce que je trouve que d'abord j'en ai assez de toutes les conneries qu'on entend. Non pas que ce soit des conneries en soi, mais c'est aliénant. Ça rend des gens malheureux, etc. Et puis, c'est vrai que quand il dit je vois le gros en toi, ça a d'abord un sens proprement symbolique. Quand Chominsu dit ça au garçon, il dit je vois quelque chose en toi. C'est-à-dire je rêve quelque chose pour toi. Je vois quelque chose que toi tu ne vois pas, que les autres ne voient pas, qui ne se voient pas, et qui est toi dans un état de perfection supérieure. Il rêve quelque chose pour lui, alors ce garçon ne rêve plus rien pour lui, que ses parents ne rêvent plus rien pour lui parce qu'il s'en est coupé, que la société ne rêve rien pour lui parce que personne n'attend personne et la société n'attend personne. Vous n'êtes attendu par personne. Il faut que vous rêviez vous-même ou que quelqu'un vous rêve pour que vous vous éleviez. Alors c'est ça le gros en lui, c'est le rêve de soi qu'on a au fond de soi, le rêve de l'excellence. Ça me paraît la chose la plus importante. Mais prendre l'image du gros pour dire ça, ça me plaît beaucoup. Parce qu'on est sous la dictature du maigre en ce moment. Et en plus, dans toutes les cultures archaïques, l'image de la sagesse, de la fécondité, ça a toujours été le volume. L'image de la force, ça a toujours été le volume, le rond, le sphérique, l'image de l'équilibre. Vous voyez, alors ça me plaît. Et alors surtout, j'ai découvert une chose depuis que le livre est paru. Et ça m'a beaucoup bouleversé, c'est que des parents d'enfants ou d'adolescents anorexiques se servaient de ce livre et l'offraient à des adolescents ou adolescentes, parce qu'il n'y a pas que des filles, des adolescents et des adolescentes anorexiques. Parce qu'au fond, Monjun est quelque part mentalement un anorexique, c'est-à-dire quelqu'un qui se coupe de ses émotions, qui ne fait pas les deuils qu'il devrait faire. C'est typique d'un anorexique. Et ensuite, il y a une image dans le livre, l'image infiniment positive du gros, qui est totalement à l'écart du discours habituel. Donc oui, ce petit aspect à contre-courant excite mon imagination poétique, mais même philosophique, oui.
Et ce qui est intéressant, c'est ce curieux maître du sumo. Il attend le bon moment également pour cet adolescent. Il ne le force pas, il revient régulièrement. Il attend que le déclic se fasse en lui à travers cette phrase. C'est vrai que finalement, une phrase, ça peut changer la vie. Alors, vous évoquez les enfants anorexiques ou pas, les adolescents. Est-ce que c'est une période de la vie que vous aimez particulièrement? Parce que finalement, l'enfant, les adolescents ne sont pas encombrés par l'illusion du savoir.
Oui, en même temps, l'adolescent plus que l'enfant. L'enfant, il sait qu'il ne sait pas. Parfois, l'adolescent commence à croire qu'il sait. C'est déjà l'adulte qui arrive. Et les adultes sont carrément foutus. Ils sont persuadés de savoir. Donc, moi, si j'aime autant les personnages d'enfants dans mes livres, c'est parce que l'enfant admet très bien son ignorance et admet très bien de vivre dans un monde mystérieux. Et ça ne l'angoisse pas d'être dans un monde mystérieux. Alors que l'adulte est angoissé d'être dans un monde mystérieux. C'est étrange. Qu'est-ce qu'on a perdu? On a perdu la confiance dans le mystère. L'enfant a ça. Alors c'est pour ça que j'aime tellement les personnages d'enfants. Là, mon adolescent, il n'est plus un enfant déjà. Il a perdu la confiance. Il souffre violemment. Il est violemment heurté. Et il va falloir retrouver le chemin de la confiance. Et le chemin de soi et le chemin des autres. Et donc c'est l'objet du livre, de comment on retrouve le chemin de la confiance. Mais je pense qu'on porte tous les âges en nous, pas seulement comme des souvenirs, mais comme des dispositions qui peuvent toujours se réactiver. Vous portez l'enfance en vous comme quelque chose qui est toujours possible. Vous portez l'adolescence en vous comme quelque chose qui est toujours possible. Qu'est-ce que c'est l'adolescence? C'est l'abandon des rêves de l'enfance pour l'acceptation de la réalité. Ce corps-là, cette vie-là, ces désirs-là, sans doute ce métier-là, cet environnement social, c'est l'acceptation de la réalité. C'est insupportable d'accepter la réalité. Donc ce conflit qui est le propre de l'adolescence, on l'a au fond, on l'a une première fois dans l'adolescence, mais on l'a d'autres fois dans sa vie. Donc on porte toujours l'adolescent en soi, pas comme un souvenir, mais comme une façon d'être en prise avec le monde. Et ça, je le je le crois profondément. Donc on ne quitte jamais ni l'enfance ni l'adolescence. On ne quitte aucun de ces âges.
Puis finalement, à l'adolescence, ce qui est beaucoup plus facile, c'est de changer d'avis. C'est ça finalement l'intelligence, de pouvoir changer d'avis.
Surtout de pouvoir se construire un avis. Parce que changer, c'est pas le plus important. Parce qu'on peut revenir à son avis précédent. Mais ce qu'il y a, c'est y revenir d'une façon construite, d'une façon réfléchie, d'une façon argumentée. Vous savez, c'est ce que raconte Pascal dans Les Pensées. Quand il parle de la loi, il parle de la dialectique de la loi. Pascal dit, au début, on respecte la loi parce que c'est la loi. Et qu'on croit que c'est vrai. Puis après, on refuse la loi parce qu'on se rend compte que c'est que la loi. Et on se rend compte que c'est faux. Et puis, troisièmement, on accepte la loi parce que c'est la loi et il faut des lois. C'est ni vrai ni faux, c'est la loi. Donc, ce qui compte, c'est comment on accepte les choses et pourquoi on accepte les choses. Et ce qui compte, c'est de les accepter avec l'intelligence et la réflexion.
Sur votre chemin, au départ, l'adolescent que vous étiez, il se rêvait plutôt musicien qu'écrivain.
Oui, moi, j'ai été comme mon héros, j'ai été diagnostiqué par les autres. C'est-à-dire, un jour, il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit « je vois un gros en toi », parce que déjà, j'avais pris de l'avance, mais quelqu'un m'a dit « je vois un écrivain en toi ». Et c'est plus tout au long de ma vie. Moi, je voulais faire que de la musique. Et chaque fois que je rendais un devoir, les profs de français étaient en état d'exaltation. Quand j'avais 17 ans, j'ai été reçu par Giscard d'Estaing, président de la République de l'époque, parce que j'avais passé le concours général. Donc j'étais le meilleur élève de composition française de France, voilà, etc. Mon aspect bête à concours. Et à chaque fois, on me disait pas « vous êtes bon », on me disait « vous êtes un écrivain né, vous trouverez votre salut dans l'écriture ». Ça m'embêtait. J'étais aussi agacé que June quand Chouminsou lui dit « je vois un gros en toi ». Parce que moi, comme j'ai toujours écrit d'une façon très naturelle, je ne comprenais pas qu'on me complimente d'écrire. C'était comme me complimenter de respirer. Il n'y avait rien de plus normal que d'écrire. Donc je ne me trouvais aucun mérite à écrire. J'avais toujours écrit et voilà. Et puis un jour, on finit par céder à son destin et à accepter d'être ce qu'on est et pas autre chose. Parce que c'est ça aussi les actes fondateurs de la vie, c'est d'accepter d'être celui qu'on est. Et après, désirer. Vouloir être celui qu'on est, parce que là les ennuis commencent, mais voilà.
Accepter celui qu'on ouais. est. Alors ce nouveau livre, il passe par un cycle qui est intitulé le cycle de l'invisible. Éric Emmanuel Schmitt, c'est quoi ce cycle de l'invisible?
L'invisible, c'est le sens, parce que le sens n'est pas visible. Dans les choses, dans l'expérience du monde, on voit les objets, on voit les formes, on voit les mouvements, mais on ne voit pas le sens des choses. Le sens, c'est nous qui le donnons aux choses, ou c'est la culture qui, par tradition, les donne aux choses. Donc ce cycle de l'invisible, c'est une véritable traversée des apparences pour essayer de trouver le sens. Et à chaque fois, le sens, dans chaque histoire, il est délivré par une spiritualité déjà existante. Alors c'est le bouddhisme tibétain dans le premier texte qui était Milarepa, c'est l'islam de Monsieur Ibrahim dans le soufisme, dans Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, c'est le christianisme de la Dame Rose dans Oscar et la Dame Rose, c'est la découverte du judaïsme par le prêtre catholique dans l'enfant de Noé. Et puis ici, c'est le bouddhisme zen de Chouminsou. C'est voilà comment doter de sens ce qui d'emblée n'en a pas. Après, moi, je me prononce pas sur l'origine du sens. Je ne dis pas ce sens est révélé par Dieu ou inventé par les hommes. Je dis voilà, il y a des systèmes de sens, il y a des grandes fictions explicatives, le christianisme, l'islam, le judaïsme, le bouddhisme. Il y a des grandes fictions explicatives qui donnent du sens. Respectons-les parce qu'elles donnent du sens, elles aident les hommes à vivre, elles créent du lien entre les hommes. Elles sont plutôt civilisantes qu'elles ne créent de la barbarie. Et donc, ces récits me permettent d'explorer ces grandes donations de sens. C'est ça que j'appelle le cycle de l'invisible.
Le besoin de sens, comme on le disait en début de rencontre avec la rencontre, avec vous ou avec les livres. Le besoin également de spiritualité, finalement, parce qu'on a tous besoin de spiritualité pour
nous accompagner. Oui, c'est ce que dit Chouminsou. On ne peut pas se passer de spiritualité. On ne peut pas ne pas donner du sens aux choses qu'on vit. Avoir une spiritualité, c'est pas avoir une religion. On peut avoir une spiritualité athée, mais on a forcément une spiritualité, c'est-à-dire on donne du sens à ce qu'on vit, ou du non-sens, parce que sans doute le cynisme est une forme de, ou le nihilisme sont aussi des spiritualités exécrables à mon avis, mais pourquoi pas. Voilà, c'est une donation de sens aussi.
En tout cas, ça passe par ce nouveau livre, Le sumo qui ne pouvait pas grossir. On aurait pu dire Le sumo qui ne voulait pas grossir également.
Ça, c'est le lapsus que font toutes les jeunes journalistes qui m'interrogent, dont je vois que le souci principal est de ne pas grossir. Ça, mais je peux vous dire, deux interviews sur dix, on finit l'interview avec là où le journaliste qui dit le sumo qui ne voulait pas grossir. Et je me dis, bon, d'accord.
Non, il ne pouvait pas grossir parce qu'il était chargé. Heureusement, il y aura une rencontre pour le décharger. Voilà, maintenant je vais céder la parole à vous, cher public qui est présent aujourd'hui. Si vous désirez poser des questions, je vais vous demander de lever la main et d'attendre d'avoir le micro près de vous afin que tout le monde puisse vous entendre. Alors, c'est toujours difficile de se lancer dans la première question, je le sais. Moi, je viens de le faire, donc profitez-en. Sinon, après, on passera aux dédicaces directement et je suppose que vous serez moins intimidé. Bon, alors, personne ne veut s'en sé... Ah, voilà, il faut toujours un premier, voilà.
Merci. Ma question, c'est, est-ce que vous n'auriez pas envie d'écrire aussi sur d'autres musiciens ?
Ah, vous avez ma vie avec Mozart.
Ah, je l'adore.
Oui, merci. Oui, j'ai très envie d'écrire sur d'autres musiciens.
Eh bien, alors, je vous demande de le faire très voilà. vite.
Je vais vous dire lesquels d'ailleurs, en priorité, ouais. J'aimerais écrire sur Schubert, parce que ça m'accompagne beaucoup, et puis j'aimerais écrire sur Bach, voilà, mais ça m'impressionne encore.
C'est vrai que Mozart, ça a été votre rencontre à vous, Eric Emmanuel Schmitt.
Oui, c'est-à-dire, ce qui me plaît, c'est de parler des musiciens, pas en termes de musicologie, mais en termes de, justement, de guide spirituel. C'est-à-dire que la musique, comme ce qui nous console, ce qui nous inspire, ce qui nous redonne de l'énergie, ce qui nous donne des larmes quand on n'en a plus. Enfin voilà, toute cette intervention de la musique sur notre vie intime, la plus intime qu'on a. Et dans ma vie avec Mozart, effectivement, j'explique comme Mozart, tout d'un coup, vient me raconter des choses que je n'aurais pas comprises sans lui, par sa musique, et me permet d'avancer dans la vie. J'en parle comme d'un philosophe, en fait.
C'est vrai que Schubert et Bach, quelle émotion également à travers la musique pour nous transporter. Donc voilà, il faudra juste patienter encore quelques instants. Voilà. Au suivant, j'ai chanté Jacques Brel. Alors, j'arrive.
Alors tout d'abord, Monsieur Schmitt, merci beaucoup pour tout ce que vous avez écrit. Moi, je suis un Allemand vivant à Bruxelles.
Ah oui.
Alors, il y a quelques mois que j'ai lu L'enfant de Noé, et c'est quand même, ça m'a touché fortement d'un côté spirituel, religieux et aussi contemporain. Alors, quand j'ai lu Le vélo pour aller au travail, j'ai même eu des larmes et les gens autour de moi ont dit qu'est-ce qui est mauvais avec ce monsieur-là. Et moi, je viens de lire un livre de Eric Emmanuel Schmitt, c'est tout.
Ça va, vous n'avez pas eu d'accident.
Oui, et c'est pas seulement les femmes âgées dans les années 50 qui sont touchées, comme vous décrivez dans votre film. Quand même une question, qu'est-ce que vous avez écrit dans l'évangile de Pilate, que vous croyez un peu distingué par les autres écrivains, parce que vous dites vous avez une base quand même religieuse et chrétienne. Et ça ne se fait pas en contemporain. Très peu de gens avouent ça ou disent ça. On peut être humaniste, mais pas chrétienne comme oui. ça. Est-ce que vous pourriez décrire un peu la relation et la significative pour vous, parce que vous avez quand même écrit sur des autres religions, des autres systèmes de pensée et de sens, et très fortement de mon avis.
Oui, mais effectivement, une fois, je me souviens, une journaliste du Monde, enfin même qui dirige Le Monde maintenant littéraire, Raphaël Rérol, m'avait dit « Arrêtez de dire dans les interviews que vous êtes chrétien, ça, c'est mauvais pour un écrivain. » Je lui ai dit, je serais pas en mauvaise compagnie. Parce que je voyais les écrivains que j'aimais, et il y en avait quand même beaucoup qui avaient fait leur coming out chrétien. Donc je ne me sentais pas vraiment mal. Mais c'est vrai que je ne parle pas des religions comme religieusement. J'en parle comme un humaniste. Et c'est ça qui, à mon avis, est la spécificité de ma démarche. C'est-à-dire que, tout en disant, voilà, moi j'ai une maison, ce serait le christianisme. Mais j'ai envie d'aller voir dans la maison des autres. c'est-à-dire d'aller voir dans le bouddhisme, d'aller voir dans l'islam, d'aller voir dans le judaïsme, etc. Ce qui nourrit, ce qui m'intéresse, ce qui provoque ma pensée, ce qui suscite mon interrogation. Et je me rends compte que effectivement cette démarche est parfois... Il y a quelques années, elle était difficile à comprendre. Je me souviens très bien, lorsque j'ai fait le premier texte Milarepa sur le bouddhisme, j'étais en Suisse pour la création du texte au théâtre, et la chaîne culturelle suisse m'interroge, et à la fin de l'entretien, le journaliste me dit « Au fait, naturellement, vous êtes bouddhiste ?» Je dis « Non, je suis pas bouddhiste. » Et il me dit « Mais pourquoi vous écrivez sur le bouddhisme si vous n'êtes pas bouddhiste ?» Et ça, je trouvais que c'était très très révélateur. Je lui ai dit « Mais est-ce qu'il faut être noir pour être antiraciste ? Est-ce que tout discours doit être un discours de défense ? Ou de prosélytisme ? Ou est-ce qu'il peut y avoir un autre discours sur les religions ?» qu'un discours de conviction. Et donc c'est ça qui m'intéresse d'avoir, c'est d'avoir un discours sur d'avoir un intérêt et un respect pour les religions sans que ce soit la mienne. Et ça m'enrichit profondément. Alors c'est vrai que moi j'ai un point d'ancrage dans le christianisme qui est bien raconté, je pense, dans l'évangile selon Pilate, puisque au fond je suis quelque part ce personnage de Pilate, c'est-à-dire celui qui est arrivé après et qui n'a rien compris. Parce qu'au fond, on est tous, qu'on soit chrétien ou pas chrétien, on est tous arrivés après sans avoir rien compris. Et on essaye de comprendre. Voilà. Et donc, dans l'évangile selon Pilate, je montre à la fois la tentation d'être chrétien et la difficulté d'être chrétien à travers ce personnage-là. Mais encore une fois, c'est vrai que c'est une conviction personnelle, mais comme toute conviction, elle n'est pas contagieuse. D'ailleurs, parfois, malheureusement, j'aimerais pouvoir être contagieux, mais je n'écris pas pour être contagieux. J'écris pour partager les questions et examiner des différentes réponses, différents positionnements par rapport à ces questions. Mais c'est hallucinant de penser qu'on est arrivé dans un monde où il y a 10 ans, par exemple, tout d'un coup, pour un intellectuel, c'était, entre guillemets, courageux de dire qu'il était chrétien. C'est à mourir de rire, je veux dire, c'est quel courage, je veux dire. Ça va, les lions du cirque ne m'ont pas dévoré, les lions du cirque médiatique, parfois, mais ils ont des tout petits crocs, c'est pas très grave.
Voilà, ben, je pense que s'il n'y a plus de questions, on va remercier Eric-Emmanuel Schmitt d'avoir été présent parmi nous. Il reste, ne vous inquiétez pas, pour faire les dédicaces, parce que je vois déjà que ça frémit. Alors je vais vous proposer de faire la file arbitrairement par ici, de façon à ce que notre invité puisse continuer à respirer. Merci à vous tous.
Je vais là. Merci. Merci. En bas, moi. Oui, je m'inspire.